Vous écoutez
RMC. RMC.
Je pense que le fait de s'être craché de cette manière-là, ça nous a remis les épaules sur la tête.
On a attendu une fois la gifle, on va pas attendre la deuxième. Hein.
Mais j'espère que la route va vite tourner pour lui et surtout pour nous, parce que ça, on en a besoin.
C'est vrai que pour le moment, je suis en train de profiter. Comme on dit, le malheur des autres font le bonheur des autres. Et pour le moment, je suis en train de profiter.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot, Thomas Desson.
On est ensemble effectivement jusqu'à minuit avec les titulaires du week-end. C'est un petit peu pôle Nord parce qu'il est entraîneur au Racing avec Damien Périnel. Ça va, tu vas bien Damien?
Très bien, bonsoir à tous.
Contre pôle Sud, Jonathan Macardy qui dit vendredi ou samedi, dit Jonathan Macardy.
Salut, on fait aller.
On comprend les points de suspension messieurs, oui, parce qu'on va y aller crescendo. En Ligue 2 cet après-midi, à Gabriel Montpied, un partout entre Clermont et le RC Lens, un but d'Adrien Gerbic sur pénalty, la réponse de Tony Mauricio, un partout donc. On a 5 équipes à 7 points dans l'ordre, Lorient, Clermont, Lens et les promus Rodez et Chambly, puisque Lorient a joué vendredi contre Nancy, un partout. Hier, Monaco à 10 en prend 3 dans son stade Louis II contre Lyon. Et ce soir, ça vient de se terminer. Victoire du stade Rennais à la Mosson, 1-0. Le DFCO Dijon contre la SSE, 2-1 pour les Verts. Victoire du SCO, 3-1 contre Bordeaux. Match nul à Francis Leblay entre Brest et Toulouse. Et victoire à l'arraché, but de Dante, 2-1 pour Nice à l'Alliance Riviera contre Amiens. Puisqu'on vient de dire ça, il y a un autre essentiel, c'est les 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Damien, 30 secondes sur la journée, en ce samedi 10 août. Quels sont tes 3 points?
Obligé, je suis désolé Jonathan, de revenir sur cette défaite de l'OM, ou plutôt des joueurs en fait, qui composent cette équipe de l'OM. Parce qu'en fait, ce sont des joueurs qui n'ont plus de fierté, j'ai l'impression. Quand on peut parler tactique, on peut parler technique, tout ce qu'on veut, on peut leur mettre n'importe quel coach. Mais au bout d'un moment, quand lors de ta première journée de championnat, t'es là pour faire un footing de 90 minutes, forcément, ça pose un problème. Deuxième point, pour Angers et Reims, parce que certes, l'OM n'a pas été bon, mais Reims a très bien joué le coup. Alors pourquoi en fait je fais un parallèle entre ces deux clubs? C'est surtout sur leur politique de recrutement, sur les moyens de ces clubs. Ça travaille intelligemment et les résultats
et
sont
coach
là.
Aussi, de bons coachs.
De bons coachs. Et dernier point concernant la Première Ligue et les trois gros qui répondent présents, et ça fait pas de détails.
Merci beaucoup Damien. Il nous parle de footing, ça rime avec bing. Jonathan, quels sont tes 3 points?
Écoute, le premier point, c'est l'AS Saint-Etienne. J'avais vraiment hâte de les voir commencer cette saison. Je trouve qu'ils ont un très gros effectif. Le point d'interrogation, c'est toujours de savoir si Ghislain Printemps va assumer au poste de numéro 1. Mais quand tu vois la qualité de l'effectif, tu te dis qu'il y a vraiment moyen cette année pour que les Verts jouent vraiment le podium jusqu'à la fin. C'est un premier match, c'est une première victoire sérieuse. L'équipe a encore de la marge de progression. Mais vraiment, voilà, j'attends la saison des Verts avec beaucoup d'impatience. Le deuxième point, c'est évidemment l'énième honte, l'énième défaite de l'Olympique de Marseille au stade Vélodrome. Là, c'était l'ouverture de la saison. Tu sais, on était un petit peu excités comme un gamin qui va en boîte pour la première fois. On se dit que tout va recommencer, tout va changer comme
ouais, mais le videur, t'as un magique.
Mais là, très franchement, c'était pathétique et on a le temps de développer. Mais il y a beaucoup de choses qui vont pas. Il y a beaucoup de choses qui se doivent de changer. Et troisième point, j'ai adoré l'intervention de Leonardo en conférence de presse. Je sais qu'on va en reparler, mais je trouve qu'enfin, il y a un cowboy, un shérif plutôt, qui est arrivé à Paris et qui règle les affaires. Il y en avait marre que le FC Barcelone prenne le PSG pour son paillasson. Et là, j'ai l'impression que vraiment, enfin, avec Leonardo, l'ordre va revenir.
Hashtag teasing de Jonathan Macardy. Effectivement, cette deuxième heure consacrée à l'OM, il nous parle de honte. Bien, le videur n'a pas laissé ce jeune adolescent rentrer en boîte
et
de
ça,
nuit.
Tu sais, tu connais la sensation. Hein,
ouais, moi, j'avais payé le videur à l'âge de 14 ans. Parce que, voilà,
à 14 ans, t'es en boîte déjà. Bah ouais, et que font tes parents?
Ouais, mais tu sais mon âge, tu peux mettre un peu de TVA. Ouais, bref, on parlera du mercato et de Leonardo et de cette première ligue. Assez d'accord avec toi, Damien. Mes 3 points, les nouveaux visages, les nouvelles recrues qui brillent, les anciens, Jérémy Morel ou Pereira Ladj au SCO d'Angers. Tout est possible. Boulaye Diaye, il a été boulémique, il jouait à Jura Sud en National 2 il y a 2 ans. Il en a fait des vertes et des pas mûres à l'OM. C'est et puis, énorme. Le troisième point, pardonnez-moi, parole, Dalida pour l'OM. On veut le top 5, nous dit André Villas-Boas, après cette déconvenue. Vous réagissez au 32-16 sur hashtag RMC Live. Le débriefing de la journée, c'est maintenant. On débute avec les Européens. Montpellier contre Rennes, respectivement 6e, 10e. La physionomie de ce match, messieurs, comme quoi faire une bonne canne, plus tu joues, mieux tu vas. But de Jérémy Morel, le premier depuis 4 ans et demi, c'était à l'OM.
Oui, enfin, Andy Delors aussi, il a fait la canne, hein.
Andy Delors a fait la canne et Andy. Son but a été refusé et puis un carton rouge, rouge direct pour un mauvais geste de Flavien Tay. C'est Rennes qui s'en tire avec une victoire 1-0. Vos avis?
Vas-y Damien.
Bah Rennes qui reste sur sa lancée du match contre le PSG, à savoir à jouer à 5 derrière, même quand on va jouer à Montpellier lors d'une première journée. Mais dans l'ensemble, Rennes qui a bien débuté cette partie, mais Montpellier, pour moi, je les voyais bien revenir dans ce match. Et avec un but refusé d'Andy Delors, encore une fois, et derrière, le gardien de Rennes qui a fait des miracles, parce qu'il y a beaucoup d'occasions, de très beaux arrêts de la part de ce gardien. Donc une déception pour Montpellier qui, dans son stade, je pense, aurait aimé démarrer autrement. En tout cas, connaissant le coach Darzakarian, il va pas être content de ce départ, ça c'est clair. Mais surprenant encore une fois je trouve cette défense à 5 de la part des Rennais.
Tu nous as parlé de ce vétéran Romain Salin qui est revenu du Sporting à l'âge de 35 ans, alors qu'on attend évidemment Edouard Mendy au poste de numéro 1.
Il a été énorme.
Il a fait un super match. Pour moi, ce match, en fait, c'est un petit peu une opposition entre deux projets qui sont un petit peu en construction, deux équipes qui étaient totalement incomplètes. D'un côté, t'as Rennes, qui est dans cette situation d'avoir vendu Ismaël Assar pour une grosse somme d'argent, qui est dans la situation d'avoir vendu Benjamin André, qui était le taulier de l'équipe, sans avoir pour l'instant été remplacé, parce que c'est pas Kamavinga, aussi talentueux soit-il, mais c'est un joueur qui est jeune, qui va pouvoir prendre ses souliers. Alors l'année dernière, quelle était la force de Rennes? C'était ce double pivot avec Clément Grenier et Benjamin André qui faisait que l'équipe était équilibrée, que ça, à la fois c'était joueur, mais à la fois ça garantissait un certain équilibre. Là, pour l'instant, écoute, je pense que Julien Stéphan, comme il l'a dit en Chine, il attend avec impatience la suite du mercato. On attend des recrues du côté rennais. Olivier Létang a par le passé montré qu'il savait aller chercher des joueurs, donc pour l'instant Rennes, on attend. Et de l'autre côté, t'as Montpellier qui a fait un des super mercato de la Ligue 1, qui s'est renforcé, qui a pris des super joueurs. Mais là, malheureusement, ce soir, tu joues ton match sans tes deux créateurs, sans Mollet et sans Tedji Savanier.
Et il te manque un gardien.
Et voilà, parce que super recrutement.
Va arriver très, très, très prochainement, il me semble. Ils n'ont pas pris Olsen en prêt?
Ils essayent, mais ça s'est enseveli, cette histoire de Robin Olsen. Il devait y avoir une visite médicale. Pour l'instant, ce n'est pas acté. Donc, tu débutes avec Dimitri Berthaud, alors qu'effectivement, Michel Darzakarian, depuis 6 semaines, se dit tiens, Edouard Mendy, ça m'intéresse. Brice Samba, ça m'intéressait. Sont partis chez des concurrents ou à l'étranger.
Après, ils ont quand même fait un beau mercato Montpellier. Ils ont pris Ferry, ils ont pris Savanier, ils ont pris Souquet. Il y a quand même eu des recrues de poids. Là, pour l'instant, écoute, tu as Andy Delors qui revient de la canne, qui est peut-être un petit peu encore dans le gaz, qui n'est pas encore en forme. Il a fait un match catastrophique soir, mais on lui pardonne parce qu'on sait la qualité qu'il a. Mais très franchement, cette équipe, quand tu sais que, allez, peut-être pas les prochaines semaines parce que Tedji Savanier va être absent encore un petit moment, mais quand tu dis qu'au milieu de terrain, tu pourrais avoir Ferry, Savanier, Mollet, je pense que l'équipe, elle aura une autre gueule. Donc pour moi, c'était un match entre deux équipes qui sont pas encore prêtes. C'est vraiment le match typique du cœur de l'été.
Mais attention, à Montpellier, au-delà de cette défaite 1-0, je veux dire, rien n'est dramatique chez eux. C'est vrai qu'ils ont ce système, encore une fois, en 3-5-2, avec Souquet qui remplace Aguilar, et le point fort de Montpellier l'année dernière, c'était les côtés. Donc Souquet va devoir s'adapter, au niveau d'Aguilar. Il a été bon, mais c'est vrai que l'année dernière, on parlait beaucoup de ce côté droit parce que t'avais un apport très offensif de la part d'Aguilar. C'est un système qui était fait pour lui.
Bien sûr,
aujourd'hui, Souquet a les mêmes caractéristiques, donc j'ai pas de doute là-dessus. Et encore une fois, un bon match aussi de Gaëtan Laborde qui s'est imposé. Alors c'est pas le plus esthétique en tant qu'attaquant, mais c'est très efficace.
Mais tu sais, et l'autre point fort de Montpellier, c'était vraiment aussi ce trio avec Mollet, Laborde et Andy Delors. Mais là, Jordan Ferry a beaucoup de qualité, mais il a quasiment joué derrière les deux attaquants et c'est pas son poste.
Il doit être plus bas.
Mais parce que Tedji Savanier, on le redit, a un petit entorse au genou. Ils ont été chercher donc les deux voisins avec Savanier et Ferry. Donc ça va peser. Je voudrais votre conclusion dans un instant pour abreuver vos propos. 24 tirs de Montpellier face à 9 du Stade Rennais. Et c'est le Stade Rennais qui s'impose. Ça fait plaisir à Yannick qui est au 32-16 avec nous, supporter de Montpellier. Salut Yannick.
Bonsoir messieurs.
Salut Yannick.
Salut Yannick.
Est-ce que tu penses que c'est du rodage? T'es pas trop inquiet? Quels sont tes sentiments?
Non, après il faut pas être trop inquiet parce qu'en plus c'est un match qui s'est quand même joué sur quelques détails. Il y a eu un penalty raté, une barre à la fin.
Beaucoup d'occasions pour vous.
Contre 10. Après, c'est vrai qu'effectivement, comme le disait Jonathan, on s'est retrouvé avec un petit déficit à la création, puisque bon, Ferry qui a fait un bon match, hein, qui a été assez omniprésent, on peut pas lui demander forcément de jouer vraiment en 10. Donc, ils avaient tenté un petit pari avec le petit Chotard qui jouait donc plus ou moins en 6 à côté de Le Taec. Ça n'a pas forcément marché. Il avait un petit peu de mal.
Tendre.
Bon, c'était après. Bon, Rennes a fait quand même aussi un bon match. Hein. Moi, j'ai vu les joueurs, la Mawassa sur le côté a été vraiment très très bon. Le petit Camavinga, je connaissais pas quand j'ai vu sa fiche, j'ai vu qu'il avait 16 ans. Je vous avouerai que ça m'a un peu quand même estomaqué. Mais non, bah ça s'est joué sur les détails, donc c'est pas très grave dans l'absolu. Mais bon, un petit match nul aurait peut-être été plus mérité. Sur le partage des points, on aurait peut-être récompensé un peu les deux équipes. Mais voilà, comme c'est dit, hein, on n'a pas Moulé, on n'a pas Savagné, c'est deux joueurs importants. Maintenant, c'est vrai que sur le banc, il y avait pas grand monde à rentrer.
Non, en plus, sur les coups de pied, vous avez pas mal d'opportunités aussi. Hein. Je repense là à une tête de Congrès où il doit largement mieux faire. Les libres de tout marquage, ça doit aller au fond.
C'est vrai.
C'est vrai, en fait, vous avez, voilà, le match, vous l'avez plus perdu que Rennes l'a gagné. Je trouve.
Il y a eu beaucoup d'occasions. Sur la physionomie du match, Montpellier doit mettre 3 buts.
Après, c'était pas des occasions non plus de ouf. Enfin, ça, effectivement, il y a eu 2-3 trucs. Le gardien, il fait un gros arrêt sur la reprise du pénalty. Mais bon, c'était pas non plus le siège. Hein. Je pense que sur les 24 tirs cadrés, il y en a quand même beaucoup. Sur les 24 tirs, il y en a beaucoup qui sont pas cadrés. Maintenant, c'est vrai qu'effectivement, Delors, bon, c'est le début de la saison, Delors, voilà, c'était pas ouf, au milieu de terrain, puis moi je pense qu'il manque quand même un petit peu de banc, on l'a vu là, si on laisse partir Sambia, si on laisse partir Paul Lannes, Douy a fait une rentrée qui était pas mal, mais je me pose un peu...
Je veux pas être catastrophique Yannick, un des chouchous de Jonathan, c'est Flavien Thay. Carton rouge direct pour un mauvais geste, vous êtes donc à 11 contre 10 pendant 20 minutes, et ce point n'est pas arrivé.
Ouais non, tout à fait. Hein. Non mais c'est sûr, on a des regrets hein, forcément. Hein. Je veux dire, t'as des regrets. Pas de là à dire qu'on aurait dû le gagner parce que je pense qu'un match nul. Mais c'est vrai que tu rates un penalty, tu joues à 11 contre 10. Oui. Non mais c'est sûr, forcément, tu sors avec des regrets. Mais c'est pas non plus la défaite où t'as été mauvais ou voilà. Je veux dire, c'est le début de saison. Comme il nous manque Moulet, il nous manque Savagné, bon, il nous manquera peut-être quelqu'un.
C'est quand même deux éléments essentiels. C'était deux créateurs principaux qui vont vous donner un petit peu la personnalité offensive de ton équipe. Après aussi, faut quand même dire que Rennes a bien défendu.
Oui.
Je les ai trouvés assez disciplinés. Alors certes, ils prenaient quelques vagues au milieu de terrain. Encore une fois, j'insiste, on en reparlera avec des Rennais, mais Benjamin André va vraiment falloir lui trouver un remplaçant. Mais derrière, bon, la défense à 5, c'était pas très beau, mais c'était quand même assez efficace.
Moi Rennes, honnêtement, je les avais pas vus jouer depuis l'année dernière. J'avais vu en Europa League, donc je les avais vus jouer à la Mousson. Moi, je les ai trouvés très costauds, déjà très concrets dans ce qu'ils proposaient. Morel, qui s'est très bien intégré, ça a été une surprise parce que bon, enfin, je ne pourrais pas faire la mauvaise langue, mais bon, enfin voilà, c'est Jérémy Morel.
C'est Madagascar, c'est le côté canne avec Madagascar,
ça
l'a boosté.
C'est Jérémy Morel, c'est un footballeur, c'est le seul footballeur au monde qui a une Kangoo custom.
Défenseur d'Ajaccio, il avait aussi une Kangoo.
La théorie de Jonathan sur la voiture qui l'aide à mieux jouer.
Non, mais Jérémy Morel, sa Kangoo, elle est customisée parce que Damien et moi on l'embrasse, ça serait forcément notre ami. Il a customisé pour accueillir ses trois gros chiens. Donc c'est l'ami des animaux. Donc ne dites pas de mal de Jérémy Morel.
Et Jérémy Morel, qui pour moi est
30 millions d'amis égale rendement sur le terrain.
On parle de Jérémy Morel comme d'une blague, mais. Respect à sa carrière malgré.
Bien sûr.
Il est encore là 35.
Yannick, on te remercie. Merci beaucoup pour tes propos. On va tout de suite enchaîner avec un supporter de Rennes parce qu'on en a parlé. Le remplaçant de Benjamin André n'est pas là. On a Camavinga qui est tout jeune. Néanmoins, 3 points de prix face à un concurrent direct, Simon, faut le dire. C'est bien.
Ouais, salut Simon. Bonjour à tous.
Salut Simon.
Bonsoir à tous, pardon. Pour cette première victoire, on ne l'attendait pas spécialement, je vous le dis, à Rennes. Parce que tout ce qui se passe avec le mercato, on est un peu pillé en ce moment, donc on s'est dit quelle équipe on va aligner. Et finalement, les trois recrues qui étaient alignées sur le terrain ce soir, on fait parler d'eux, hein, parce que Flavien Pes prend un rouge, Morel marque un but et Salin rate un penalty. Donc au final, on prend les 3 points. On va pas s'emballer. Je pense que l'analyse de Yannick juste auparavant, un supporter de Montpellier, était plutôt lucide. On a été costaud, ils ont eu 24 tirs, on en a eu 9. Ouais, je pense qu'un match nul aurait même été logique.
Ça reflétait plus la physionomie du match, on est d'accord.
Il faut être clair là-dessus, faut pas se cacher. Maintenant, sur le contexte actuel, avec le départ de Sarr qui est arrivé il y a deux jours.
Le mercato commence maintenant pour vous, hein, de toute façon.
Ouais, le mercato, hein. Voilà, vous avez 20 jours. Sur les réseaux sociaux, et puis
moi,
je me fais chambrer de partout. On me dit, Rennes, tu joues à quelle équipe? Tu vas mettre tes 16 ans, tes 17 ans, tes 18 ans. Enfin, voilà, c'est compliqué parce qu'on perd quand même la grande majorité des joueurs qu'on fait notre saison dernière.
Simon et les consultants. Moi, je suis embêté parce que Flavien Tej me dit que ça va être une des révélations, ça va être une montée en puissance. Trophée des champions, pas encore là. Et là, c'est un joueur qui a du tempérament. C'est un mauvais geste ce soir.
Deux matchs.
Ouais, après,
c'est
Flavien
un peu tôt, Tej, non
pas, enfin, je veux dire, ça fait, voilà, il a joué deux matchs.
Ouais.
Ouais, il a fait le geste qu'il fallait pas. Maintenant,
ce qui m'embête sur le geste qu'il fait, en plus, ça, il est très naïf, hein, parce qu'il le fait vraiment devant l'arbitre. Alors, même si à la VAR, il est vraiment naïf de faire ça à 4 mètres de l'arbitre,
ouais,
en plus, dans son vision.
Je suis d'accord avec vous. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Après, faut pas, je pense que Flavien Tej, il vient d'arriver dans son nouveau club, il veut prouver, et puis du coup, il y a un peu de nervosité,
ouais, bien sûr.
Et puis il part un peu en sucette, comme on dit, et puis voilà, après...
Vient d'arriver, ouais, on va lui laisser
la chance. C'est largement trop tôt, déjà, rien que de l'évoquer, tout simplement.
Et puis ça reste un des meilleurs coups du mercato fait jusqu'à présent en Ligue 1 en termes de rapport qualité-prix, parce que c'est quand même un joueur qui a montré qu'il avait en lui de passer un cap, quoi.
Ah bah ça, Jonathan, je te rejoins complètement. Je pense qu'à Rennes, avec les départs qu'on a eus, on a oublié qu'on avait recruté Flavien Tej. Moi, l'année dernière, j'étais à Angers, voir Angers-Rennes, et Flavien Tej à Angers, c'était avec Jeff Rennes-Adelaide qui est au-dessus aussi. Enfin, c'était vraiment les deux joueurs qui faisaient la différence du côté d'Angers, qui nous avaient fait très très mal d'ailleurs. Donc aujourd'hui, on est très très content de l'avoir. Maintenant, pour parler du match de ce soir, voilà, on va prendre les trois points. J'ai l'impression de me répéter par rapport à plusieurs fois où je suis intervenu avec vous, parce que j'ai l'impression qu'on a gagné souvent quand même un petit peu dans ces conditions l'année dernière. Mais on va prendre les trois points, on est content, et puis on va se concentrer maintenant sur le PSG.
Mais tu sais qu'on peut faire, on peut presque faire un parallèle avec le match de la semaine dernière avec le trophée des champions, hein, où on a eu, pour moi, lors de ce match contre le PSG, trois axios qui ont vraiment fait un très bon match, qui ont craqué dans le dernier quart d'heure. Mais qui dans l'ensemble c'était très cohérent défensivement et on s'était plaint justement du peu de créativité offensive de la part de cette équipe rennaise. Mais sur ce match-là contre Montpellier, c'est un peu la copie conforme, sauf qu'en face, bah t'as une équipe de Ligue 1, alors que le PSG c'est Champions League.
Et les gars, juste, on va mettre un dernier point sur Rennes. Parce que là, on parle du match, mais par contre, qu'on soit bien clair, hein, c'est impératif que Rennes s'active dès maintenant sur le marché des transferts.
Ah bah oui,
je peux pas faire la saison comme
clair.
Ça. On n'est pas inquiet parce qu'il reste du temps et qu'encore une fois, les temps ont montré qu'il avait les réseaux pour faire venir des bons joueurs. Mais là, t'as au moins trois joueurs à recruter. Un milieu, quelqu'un devant et quelqu'un derrière en plus.
Et tu veux vibrer en Coupe d'Europe. Merci Simon pour tes propos. Et on se retrouve très vite.
Parce que moi, mon fils est parti en vacances chez mes parents en Bretagne, justement près de
qui on embrasse.
Je lui fais un gros bisou et puis la victoire elle est pour lui et puis bisous à mes parents, Gisèle et Yannick.
Comment il s'appelle ton fils Simon?
Axel.
Salut Axel, on t'embrasse. Merci, on parle de rouge et noir très vite.
Ciao.
Simon nous parlait de Jeff Rennes Adelaide qui a été un king ce soir. Le SCO contre Bordeaux, la SSE avec ses 5 recrues contre Dijon qui s'impose. C'est l'after sur RMC, on revient dans un instant.
RMC, l'after foot, Thomas Desson.
Une émission préparée par Cyprien Betou. On est ensemble jusqu'à minuit. Évidemment qu'on parlera de l'OM. Évidemment qu'on parlera du cas Neymar et de Leonardo qui impose sa patte et de cette première journée de Première Ligue qui continue demain. Mais place à ces nouveaux visages, à ces nouvelles recrues, messieurs, qui ont brillé ce soir. Je parle notamment des Stéphanois. Victoire 2-1 à Dijon avec ses 5 recrues. Damien, Jonathan.
Vas-y, Damien.
Continue, ça m'a lancé. Non, bah écoutez.
On va rappeler la physionomie, excuse-moi, je vais un peu vite. Kazri pour Amouma, 1-0. Passe de Boudbouz à Olou, l'ancien Strasbourgeois qui avait passé un an à Monaco à l'image du club. Réduction de l'écart sur pénalty de Julio Tavares. Mais les recrues ont fait du bien. Et vous savez quoi, messieurs, avant de vous entendre, c'est un petit cadeau que nous a fait Jérémy Danzé et cet homme-là, de retour en France. Bonsoir, Riyad Boudbouz.
Ah.
Bonsoir.
Salut Riyad.
Bonsoir Riyad.
Salut.
J'ai besoin de savoir un truc Riyad, extra-sportif, enfin, ça fait un moment que t'as cette petite attelle à la main, j'ai besoin de savoir, qu'est-ce qui se passe?
Bah, je suis tombé au bêtises, je me suis fait une petite fracture au poignet, pour pas prendre de risque, je préfère jouer avec une attelle parce que ça me protège, et voilà, j'ai encore un petit peu mal, mais rien de grave.
D'accord. Des propos absolument fabuleux quand un joueur, et je parle de toi, parle de sa nouvelle équipe comme ça, mais on sent que c'est vrai. Cette âme verte, ça y est, t'es déjà séduit. Il y a coup de foudre, on peut dire, même après quelques jours.
franchement, dès mon arrivée, comment on m'a facilité l'intégration, c'était pour moi très rare et ça m'encourage parce que j'avais envie aussi de bien faire, de pas me tromper. Et aujourd'hui, quand je signe dans ce club, franchement, je suis très fier et j'espère qu'on va pouvoir gagner beaucoup de matchs et même en Coupe d'Europe faire vibrer le public et tout le club parce que de ce que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui, c'est pour moi étonnant comment les gens sont dans ce club, sont très chaleureux et ils font tout pour nous mettre à l'aise et moi j'adore ça.
Salut Riyad.
Salut.
Bravo déjà pour le match. Écoute, on t'avait eu au moment où tu t'as signé à Saint-Étienne. Moi, je t'avais demandé de nous expliquer un peu la bonne entente que tu avais eue avec Wahbi Khazri à Bastia. Là, franchement, ce soir, on a l'impression que tu joues dans cette équipe depuis déjà 2-3 saisons. Donc, c'est vraiment surprenant. Félicitations pour ça. Et je voulais savoir, toi, maintenant que t'as intégré, t'as joué ton premier match, c'est quoi les objectifs du club cette saison, selon toi?
Si on arrive à faire la même saison que l'année passée, ça sera déjà formidable. Ça va demander beaucoup d'exigences et c'est à nous d'être attentifs aux entraînements et de faire des bons résultats dans les matchs difficiles comme aujourd'hui. Et voilà, on va pas se voler la face. Il faut être très exigeant pour garder ce niveau-là et surtout qu'il y a l'Europe qui va rentrer en jeu. Beaucoup de joueurs vont être fatigués et j'espère qu'on pourra relever le niveau.
Parce que Riyad, franchement, et puis j'en toucherai un mot à ton coach, mais pour moi, avec l'effectif que vous avez, vous devez jouer le podium.
Beaucoup de gens nous disent ça, mais faut pas. Dans le foot, vous savez comment ça se passe, hein, une série de résultats négatifs et ça peut vite descendre vers le bas. Faut pas s'enflammer, faut continuer à travailler. Et je pense qu'on a beaucoup de qualité dans cet effectif. Même les joueurs qui peuvent apporter quand ils rentrent, c'est franchement un très bon groupe et j'espère que voilà, on va garder les pieds sur terre et on va faire beaucoup de travail encore pour ajuster ce qui nous manque.
Bonsoir Riyad, c'est Damien Perrinel.
Bonsoir.
Donc j'ai lu une interview de toi cette semaine dans la presse. Et en fait, ce qui ressort de cette interview et même la manière dont aujourd'hui tu abordes tes matchs et la manière dont tu les joues, j'ai envie de te dire bienvenue dans le clan des trentenaires bientôt. Parce qu'on sent, on sent vraiment une maturité, même dans tes propos sur le foot en général, sur qu'aujourd'hui, c'est plus le cœur, l'état d'esprit, l'équipe qui doit dominer, se mettre au service de ce collectif. Et aujourd'hui, quand on te voit jouer, ça respire ça, en tout cas, ça respire foot.
Franchement, avec l'âge, voilà, tu te rends compte que l'individuel ne ressort pas. Si l'équipe est bonne, si l'équipe gagne des matchs, chaque qualité de chaque joueur ressortira. Et moi, c'est ce que j'ai appris. Après, j'ai eu la chance d'avoir cette expérience en Espagne qui m'a fait mûrir en tant qu'homme, en tant que joueur. J'ai vu d'autres choses. Et aujourd'hui, je reviens ici à Saint-Etienne pour donner le meilleur de moi-même, pour aider l'équipe à aller le plus haut possible. Et voilà, je vais tout faire en tout cas pour essayer d'apporter le maximum à mon équipe.
Écoute, ça se ressent en tout cas, vraiment.
50e passe D ce soir en Ligue 1, c'est ça?
J'ai pas compris.
J'ai cru comprendre que c'était ta 50e passe décisive en Ligue 1 ce soir.
Écoute, je savais pas du tout.
À part Dimitri Payet, y a personne qui en a filé autant des caviars.
Depuis 2011 et les 17 de Marvin Martin, tu vois, il est jaloux, il veut dépasser Marvin de 2011 avec Sochaux. Les 30 ans, c'est pour le 19 février prochain. Riyad, le fait de faire une passe décisive à Jean-Eudes Aoulou, c'est pour faire le bizutage ensemble, vous allez chanter ensemble?
J'ai déjà chanté, pas lui.
Qu'est-ce
que
t'as chanté?
J'ai chanté Rof.
En 8-10 secondes, ça donne quoi, Riyad, qui fait Rof?
C'est un truc de vestiaire. Riyad,
bon, c'est cool,
c'est un truc de vestiaire, c'est vrai.
C'est vrai, t'as tout fait. Merci beaucoup de nous avoir offert ces précieuses minutes. Merci beaucoup, très belle aventure avec les Verts, à Riyad Boubouz et à la SSE. Merci aussi à Jérémy Donzet.
Ça fait plaisir de le revoir en Ligue 1.
Ça fait plaisir de l'entendre, ça fait plaisir de le voir. On a vu sa patte, c'est un régaleur. Qu'est-ce que vous voulez?
Non, c'est un joueur qui est parti il y a l'année dernière, il me semble, hein, c'est ça, ou il y a deux ans.
Ouais, deux ans et demi.
On disait voilà, on perd un technicien, un bon joueur de football, et de le voir revenir à pleine maturité comme ça pour notre Ligue 1, c'est une plus-value, je trouve.
Moi, j'ai été même bluffé avec le Bétis. Il te le dira pas, mais avec le Bétis, il a joué une dizaine de matchs. Dans l'interview dont tu parles, il te dit que Quique Setién, c'est un mec qui est extraordinaire, qui se bat pour ses envies. Donc même quand il a été dans le dur, Riyad Boubouz, il voit le positif. Il voit le positif.
Bien sûr.
Claude est avec nous. Bonsoir Claude. T'es très content de ces recrues.
Salut tout le monde.
Salut Claude.
Oui, alors moi je suis supporter de Saint-Etienne et j'ai vécu une soirée très agréable. Je suis agréablement surpris pour un match du samedi soir parce que on va pas se mentir, bien que supporter de Saint-Etienne, l'an dernier jusqu'au printemps et les années précédentes, Il y a des matchs où franchement, carrément, je bouquinais pendant le match et je relevais la tête quand j'entendais le commentateur s'exciter parce que il y avait des vraies purges. Alors à l'arrivée, quand on gagnait, j'étais évidemment content, mais même le match à Dijon de l'an dernier, je sais qu'on l'a gagné, mais il m'a pas marqué, je me rappelle même plus du scénario du match. Or, ce soir, je trouve que les deux équipes ont eu des manques, c'est le premier match de l'année, mais j'ai vu un match très agréable. Ouais. Saint-Étienne, sur les bon moment, on a vu des gestes techniques, des phases techniques très prometteuses, mais même les Dijonais, je dois leur faire un compliment, ils ont pas lâché le match jusqu'au ouais. bout, à la 76e et la 83e minute, pour moi, il y a deux actions qui illustrent parfaitement le match, Saint-Étienne a une occasion de but, et sur la contre-attaque, Dijon est pas loin de marquer non plus.
C'est vrai.
Mais tu sais, Claude, ce que tu dis pour ce match-là, je trouve, se vérifie pour l'ensemble des matchs de cette journée de championnat, on a vu beaucoup d'envie, et voilà, il y avait des fourmis dans les jambes. J'ai pas mal d'équipes et ça a donné une journée sympa. Voilà, exactement.
J'ai cru que ça allait être tambour. Attends. 1-0, le Dijon Saint-Étienne dont tu parles, un but de Subotic. L'an dernier, c'était excité aussi, hein. 30 buts entre le vendredi et le samedi. Là, c'est 16 buts, Claude. Mais prometteur quand même, cet ASSE.
Bah sur ce match-là, très prometteur, c'est-à-dire que il y a eu des phases où ils ont été plus en difficulté. Je pense que c'est d'une part parce que Dijon a bien joué aussi, je le répète, d'autre part parce que par moment il manquait de gaz. Bon, c'est le premier match de l'année, mais Boudbouze qui vient d'intervenir, son coup franc, c'est une merveille.
C'est clair.
Au niveau de la Ligue 1, c'est pas le même niveau, mais au niveau de la Ligue 1, moi je trouve que c'est un peu l'équivalent de Griezmann, Varane contre l'Uruguay, quoi. C'est
au niveau de la Ligue 1.
La déviation de la tête, elle est parfaite.
On peut mettre l'accent sur le but d'Amouma, quand même.
Oui.
Il met un but.
Claude et les consultants.
Et la passe de Cazerie est un caviar aussi. Donc les deux buts sont magnifiques, quoi.
On n'a pas parlé de Miguel Troco, le Péruvien. Mais si on n'en a pas parlé, c'est bien.
Non. Ce qui était absolument parfaite.
Il vous sauve. Alors moi, écoute, Miguel Troco, j'ai été surpris que
tu l'aurais bien voulu à Marseille.
Mais bien sûr, et je sais qu'après la Coupe du Monde, après la dernière Coupe du Monde, Pierre Ducrot le représentait auprès de clubs de Ligue 1. Il y a personne qui a voulu le prendre. J'ai jamais compris pourquoi. C'est un super latéral. C'est un super joueur. Il est très bon techniquement, défensivement, c'est très costaud. Vous l'avez payé 1 million d'euros. Et le jour de son arrivée, j'avais dit à tous les supporters stéphanois que vous aviez fait une affaire. Je dis pas que c'est un joueur niveau Ligue des Champions forcément, mais c'est un joueur qui apporte beaucoup de garanties. C'est un joueur qui a prouvé au niveau international, qui est un des tauliers de cette équipe du Pérou, qui est quand même une des meilleures sélections du continent sud-américain. Pour 1 million d'euros. Et j'ai trouvé qu'il a apporté quelque chose qui, pour moi, que je trouve quand même hyper intéressant. C'est qu'il a ce mélange que certains joueurs sud-américains ont de grinta et de qualité technique. C'est pas juste un boucher. Il va être capable, tu vois, quand ça va être chaud, par exemple, je pense au derby contre Lyon, d'aller mettre le taquet qu'il faut. Mais il a aussi une super patte et pour 1 million d'euros, très franchement, qu'est-ce que tu peux demander de plus?
Un peu de tâtonnement à l'image de Saint-Etienne au début de match et puis ensuite il s'est mis dans le moule et puis dans le rythme et ça s'est bien passé pour lui. Je suis d'accord avec toi.
Claude, on finit avec toi, mais juste un mot sur Dijon. Quand on voit que on a été chercher Kolemanga, Ndong, on prend un peu plus de densité physique. Il le disait, Jobard, il voulait éviter les maux de tête. Non, mais
c'est un joueur de foot, Ndong.
Mais non, mais ce que je veux te dire par là, c'est que l'an dernier, Dijon n'était pas taillé pour le maintien. Ils ont eu peur jusqu'à la fin. Là, on a clairement décidé qu'on allait jouer la deuxième partie de tableau et on a été chercher des joueurs pour une dimension physique.
Ouais, Bruno, bon retour quand même d'Ekwelemanga. C'est un joueur qui, lorsqu'il était à Angers, aurait pu faire une autre carrière.
Il a eu des problèmes personnels.
Voilà. Mais c'est vraiment un super joueur.
Lorient, non
à Angers, Lorient. On avait commencé ensemble, on a à peu près le même âge. Enfin,
c'est lui qui remplace Koscielny, non?
À Lorient, ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est vraiment une plus-value, hein, sur ce poste de défenseur central. Après, quand t'as Didier Ndong, c'est vrai que un peu de mal à comprendre pourquoi on s'obstine sur ce profil de joueur.
Il a plombé également l'an dernier.
Ouais, et puis là, il a encore une chance en Ligue 1 cette année, donc à voir, à lui de prouver encore une fois qu'il peut aider Dijon à s'en sortir. Mais il y avait peut-être autre chose à faire, des joueurs un peu plus de ballons à prendre pour s'en sortir.
Merci Claude, on referme cette page Dijon SSE. Est-ce que tu as un dernier petit mot pour ton club? Dernière pensée?
Ben moi, je leur souhaite vraiment une bonne saison et je pense que c'est pas anodin de gagner le premier match parce que depuis l'affaire de la caisse noire en 82, les saisons où Saint-Etienne a gagné le premier match, ça se compte sur les doigts d'une main.
Et ben voilà, ah, voilà une statistique importante. Après Opta, on a Opt Claude. Très bien, merci.
Salut,
Claude. À très vite.
Voilà.
Ciao, bonne soirée.
Ciao les gars. Cool. Moi je passe un gros bonjour parce que ça, on a des auditeurs qui sont géniaux. Alors au compte Instagram ASSE Actu Humour, allez le suivre, le mec il est hilarant. C'est un des plus grands passionnés de Saint-Étienne que je connaisse et il est vraiment très drôle. Et sur Twitter c'est Centre Jonco. Donc ça prouve tout l'humour qu'il peut avoir.
Continuez sur le hashtag RMC Live ou au 32-16. On passe à cette rencontre entre Angers et Bordeaux. Il paraît que les bouées de sauvetage, ça n'avait rien à voir et que ce n'était pas prémonitoire avec sauvetage. Sauf que après un 2 Préville, tout feu tout flamme, comme lors des matchs de préparation, les Bordelais ont sombré, messieurs. Allez. 3-1 à l'arrivée. Jeffrey Adelaide, extraordinaire. Je croyais qu'il était partant. On va en parler.
Il était
et
énorme.
Puis alors ce petit international des moins de 21 pour le Portugal qui est clermontois, Mathias Pereira-Ladj, quel bonheur aussi.
Vas-y, Jonathan.
Bon, on va commencer par Angers. Angers, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Bordeaux quand même. Angers, écoute, dans la continuité du travail sérieux qu'ils font depuis plusieurs années en Ligue 1, t'as des joueurs qui sont restés, qui sont là, je pense, depuis la montée. Je pense que notamment en défense, Manso, Pavlovic, Romain Thomas, que j'ai trouvé encore une fois très solide. Santa Maria qui joue devant la défense, c'est quand même un beau joueur de foot. T'as de la qualité devant avec Jeffrey Adelaide. Donc écoute, Angers, c'est un Angers qui encore une fois va être une équipe chiante à jouer, qui peut jouer la première partie de tableau et font un grand match ce soir. Donc bravo.
Moi, je vais avoir besoin tout à l'heure d'Oussem Loussaïf parce qu'on pensait que Santa Maria était partant. Ils ont réussi à le garder. Offre de 20 millions pour Jeffrey Adelaide. Je ne sais pas s'il a envie de se montrer, mais ce soir, des jambes de feu. Stéphane Moulin, il fait encore des miracles avec des effectifs très humbles.
Sur
Angers, ouais, quand on voit leur recrutement aujourd'hui, il y en a eu pour 8 millions d'euros, il me semble. Ce qui est dérisoire avec les prix.
Tu t'achètes un orteil en Angleterre.
Mais surtout, je vais revenir sur ce que le joueur que tu ciblais, sur Pereira-Ladj, qui sort de 3 saisons à Clermont où c'était le maître à jouer.
Ça
te de connaît
un peu Clermont, c'est intéressant d'entendre.
C'est pour ça que j'ai un regard attentif. Et
on fait la bise à sa paire des fois aussi.
Je joue avec son frère, avec Charlie, qui aujourd'hui est à Andrézieux. Mais non, super joueur. Et déjà, quand on joue en Ligue 2 à Clermont et qu'on est appelé chez les Espoirs au Portugal, c'est qu'on doit avoir un peu de qualité, encore plus quand on y retourne. Donc encore une fois, super super recrutement, très malin de la part d'Angers. Maintenant, moi, en défense centrale, certes, ils ont fait un bon match aujourd'hui, mais j'attends quand même le retour d'Isma Traoré.
Oui, bah oui.
Parce que Isma,
oui.
Voilà, c'est quand même le patron. Il bonifie les joueurs autour de lui.
Oui, c'est vrai.
C'est un vrai
il
leader.
Le sait, Romain Thomas, qu'il est numéro 3 au moins dans cette hiérarchie.
Je sais pas, parce qu'il y a quelques saisons, on en parlait comme la révélation et quelqu'un qui pouvait franchir éventuellement des paliers.
Ça fait plaisir à mon petit gazon. Hein.
Mais
Traoré ou Romain Thomas,
Thomas, ouais. Traoré, pour moi, est un vrai leader dans cette équipe. Ouais. Et bien sûr, tirer un coup de chapeau à cet entraîneur, à Moulin, qui chaque année perd des joueurs.
Mais ça devient pas le doyen, mais le plus ancien.
C'est pas juste Stéphane Moulin, je pense.
Non,
c'est toute la cellule sportive.
C'est Olivier Piqueux, c'est voilà. Tous ces joueurs.
La suite de recrutement, top. Alors après, on va parler de ce qui fâche. Les Girondins de Bordeaux. Alors. Nouveau projet, nouveau propriétaire, on entend un petit peu tout et son contraire à ce sujet-là. Paulo Souza est arrivé, on a tous été très enthousiastes par rapport à ce qu'il dégage. C'est quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui présente bien, c'est quelqu'un qui s'exprime bien. Mais là maintenant, je pense qu'il faut un petit peu tirer le bilan. Parce que ça fait quand même un petit bout de temps qu'il a repris Bordeaux. Et très franchement, alors, il a plein de circonstances atténuantes. L'effectif est faible. Les recrues, c'est pas des recrues qui sont au niveau, au standing. Enfin, qui sont du niveau du standing d'un club comme les Girondins de Bordeaux. Mais là, si on fait le bilan, maintenant, c'est 2 victoires, 2 nuls et 7 défaites depuis qu'il a pris l'équipe. Et plus que le résultat comptable, ce qui m'inquiète, c'est que l'équipe, pour l'instant, on est à plus de 10 matchs avec les amicaux. Je vois aucun style de jeu.
Il y a la victoire contre Caen qui plonge Courbis et Mercadal. Ouais. T'as l'impression qu'ils ont gagné.
Ils ont gagné contre Marseille. Ils ont gagné contre Marseille. Ça, c'est normal. Écoute, comme tout le temps. Et puis contre Caen. Non, mais franchement, cette équipe, je suis désolé, Paulo Souza, moi, je l'adorais quand il était à la Fiorentina. Je l'avais d'ailleurs souvent vu là-bas à Florence, son équipe jouait. Mais là, très franchement, il n'y a aucun style. Les joueurs sont perdus. Tu sens pas du tout ce qu'ils veulent mettre en place. T'as l'impression que lui, sur le bord du terrain, il est totalement à la ramasse. Donc j'ai des gros doutes. J'ai des gros doutes, pas sur sa qualité d'entraîneur, mais sur son adéquation avec le contexte bordelais actuel.
Certes, Jonathan, mais aujourd'hui, ce qui te plombe un peu sur ce match-là, t'as ta défense centrale.
Oui.
Ce sont censés être tes joueurs les plus expérimentés avec Mecher et Pablo.
Pablo, ouais.
Pablo, international brésilien, quand même, pas l'oublier.
Ça, c'est une blague.
Eh ben ouais, mais à l'époque, on appelait pas Thiago Silva.
Franck Jurietti, international. Hein.
On mettait pas Thiago Silva, on appelait Pablo.
Ouais, c'est plus compliqué.
T'as trois joueurs au milieu qui sont des jeunes du centre de formation, donc pas facile de tenir un milieu de terrain comme ça. Et pourtant, on pensait que ça allait bien partir hein, avec ce but dans, au début de match de Préville, mais trop juste en effectif. Là, il faut vraiment, il faut du leader et peut-être pas des joueurs des extrêmement bons
Stéphane
footballeurs
Martin,
du caractère.
Stéphane Martin, à la fin de sa présidence, quand on lui avait annoncé Pablo à Barcelone, il avait dit non, c'est un canular, c'est un canular, ouais. c'est pas possible. Mais... On va revenir dans un instant ouais. après votre première introduction parce que on a un Fred qui, comme par hasard, a 33 ans, qui est supporter de Bordeaux et je sens un peu le coup de gueule. Bonsoir Fred, est-ce que ça va quand même?
Oui, bonsoir à tous.
Salut Fred.
Ben, ça va, ça aurait pu aller avec une victoire des Girondins, mais on a commencé par une défaite. Donc bon, c'est pas facile. Après, voilà, je suis tout à fait d'accord avec vous. Quel est son style de jeu à cet entraîneur-là? Il était bon à la Fiorentina et maintenant, qu'est-ce qu'on attend de cette équipe de Bordeaux? De jouer les milieux de tableau, de jouer le maintien, qu'est-ce qu'on attend?
Ah, après, mais encore une fois, t'as des propriétaires qui arrivent en disant nous, on va investir de l'argent, on va faire du mercato, on va faire ci, on va faire ça.
Du trading.
Et aujourd'hui, le seul joueur que t'as, c'est Koscielny, qui a 33 ans, il me semble, et qui vient seulement d'arriver il y a 3-4 jours. Le mercato n'est pas ouvert que depuis 3-4 jours.
Ça, il était à Burger King. Il est dans le. C'est le fast food. C'est pas le fast foot, tu vois. Enfin, il veut faire la même chose.
Est-ce qu'on est obligé de dire
cette blague, les gars?
Non, je suis sérieux quand je dis ça. Après le fast food, il est dans le fast food. C'est-à-dire que lui, ce qu'il veut, c'est que ça marche bien. Le stade, c'est que ça vende. Mais tu veux des joueurs qui finissent bien leur saison pour bien les vendre.
Il faut des bons joueurs.
Mais si tu veux du monde au stade, il te faut un peu spectacle sur.
Il faut des bons joueurs.
Il te faut du résultat.
Il est pas mal. Il est pas mal le Sud-Coréen qu'ils ont pris. Il est trouvé intéressant. On va attendre de voir un petit peu sur plusieurs matchs.
Mais
je suis quand même assez déçu de Paulo Sousa. Très franchement, on attendait beaucoup depuis qu'il est arrivé. Là, je suis d'accord, Damien, il a pas l'effectif, mais quand même, tu attends un minimum de cohérence tactiquement dans les mises en place de ton équipe, un minimum de voir des mouvements, de sentir aller quelque chose frissonner. Là, ça fait plus de 10 matchs. Très franchement, les matchs ont été tous plus catastrophiques les uns que les autres. Je sais pas ce que t'en penses. Notre auditeur, mais
attends, Fred. Le banc, t'as ceux qui rentrent, t'as Basic, Benraou,
Benraou,
Poussin, Kouateng, Koscielny sur le banc et Kamano.
Ouais.
Voilà ce que t'as. Et quand même sur ton effectif, première journée de championnat.
C'est compliqué.
Ouais. Mais il peut faire mieux. Je suis d'accord avec vous, mais c'est compliqué.
Fred,
Kalou est costaud, Depréville est costaud pendant les 20 premières minutes et ensuite ça s'écroule, Fred.
Ben oui, non, mais après, Depréville, il répond à la quatrième minute, il fait son boulot, et après, est-ce que nous, on a les reins pour en tenir jusqu'à la fin du match? Non. Mais est-ce qu'on aurait pu éviter quelques buts? Oui. Ça, là-dessus, on doit resserrer les reins, et après, voilà, enfin, on a une défense à 4 aujourd'hui, on doit bloquer et pas faire de cadeaux à Angers, prendre 3 buts.
Je pense que de toute manière, dans ton organisation tactique, il y avait quelque chose d'autre à tenter. Alors bon, tu pourras vraiment plus le faire si quand t'auras Laurent Koscielny, mais je pense que essayer peut-être de jouer à 3 derrière, peut-être de faire jouer Depréville vraiment plus haut à côté de Jimmy Briand, que j'ai trouvé un petit peu perdu ce soir. Il y a des choses à tenter, mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il tente pas grand-chose, notre ami Paulo Sousa.
C'est ça. Va falloir les tenter et rapidement pour engranger le maximum de points avant la trêve, pour essayer d'attirer du monde à la trêve au mercato.
Bon, si il reste 20 jours quand même, hein, mon pote, là, pour attirer des joueurs. T'as besoin de recruter, là.
Ouais. On est mal, mais après, ça fait 4-5 ans que ça dure. Hein. On a commencé avec la crise à Bordeaux. Et je pense que maintenant, chaque supporter n'est pas surpris qu'il y a peu de joueurs qui arrivent au mercato et que c'est la valse des entraîneurs à Bordeaux.
Vous avez failli avoir Christiane Pavone, les gars.
Mais il va où?
En MLS. La plage, Malibu, les soirées au Château Marmont.
Los Angeles.
Allez.
Non, mais après.
C'est beau Bordeaux, hein, aussi, hein.
Non, mais sur Bordeaux, on peut dire qu'on fait un constat après une première journée. Mais non, comme dit Jonathan, c'est pas après la première journée. Il y a eu ces matchs amicaux.
11e match, hein,
il y a eu la fin de saison dernière, quand même, et on a l'impression qu'on repart dans les mêmes travers, un peu comme.
Non, stop, allez, arrête, c'est bon. Et il y a un truc, quand même, parce que là, on est dans.
Non, mais attendez, regardez, les gars. Angers-Bordeaux. Au début de saison, on met Bordeaux 3-4 places au-dessus d'Angers. L'an dernier, Angers finit devant Bordeaux. Et aujourd'hui, plus forcément
du tout. Cette saison, Angers, pour moi, c'est supérieur à Bordeaux. Quoi.
Toi aussi, tu mets Angers, après 38 journées, tu mets quand même devant Bordeaux.
Normalement, c'est ça le problème. Mais aujourd'hui, c'est ce que tu regardes. Bah ouais, il y a plus de cohérence, de continuité sur un club comme Angers, ouais.
Bah, on parlait de vin, on parlait de château. Je sais pas si le verre est à moitié plein après cet échange pour toi, Fred. On te remercie. Merci pour ta participation.
C'est moi les gars, bonne émission.
On fait un bisou quand même à Baptiste Le Caplin, notre ami de l'after qui va être en PLS là. Il doit mal commencer sa saison, le pauvre.
L'humoriste Baptiste Le Caplin, effectivement, grand défenseur, grand supporter des Girondins.
Le plus grand supporter des Girondins de
France. Affiché, connu, reconnu, mais il y en a d'autres. Un gros quart d'heure encore, c'est dans un instant.
C'est un hooligan.
On file au stade Francis Leblé pour parler de Brest-Toulouse et Nice-Amiens. Victoire à l'américaine, à la NBA, façon NBA. Buzzer de Nice.
Toulouse, il joue en Ligue 1.
Brest-Toulouse, ouais.
Toulouse joue en Ligue 1.
Ah bah, on va en parler dans un instant.
J'avais oublié.
RMC, l'afterfoot, Thomas Desson.
Ouais, associé ce soir à Jonathan Macardy avec Damien Périnel, une émission préparée par Cyprien Béthou. On a encore quelques surprises à 23h avec évidemment un nouveau naufrage, même si c'est le début de l'OM, on en parle dans un instant. Le promu se comporte bien, rattrapé néanmoins par le TFC, un partout au stade Francis Leblé, Damien.
On a vu un stade brestois vraiment sans complexe. Dès le début de ce match, qui est venu avec l'intention, on va dire les choses, hein, de bouger cette équipe de Toulouse, une équipe de Toulouse qui elle nous a pas vraiment surpris de par son jeu, mais non, on va plutôt s'attarder sur cette équipe de Brest avec un Mathias Autrey qui est vraiment le capitaine et l'âme de cette équipe de Brest et qui a marqué ce soir. Mais au-delà de ça, c'est l'intelligence, je trouve, d'Aloglio, d'être sur la continuité. Par rapport à ce que se faisait Furlan, il y a un peu une même la même méthodologie, la même vision du foot chez les deux. Ouais. Et aujourd'hui, Daloglio a été intelligent dans la manière de prendre ce groupe. Il n'est pas arrivé en faisant le cow-boy en disant allez avec moi tout va changer.
C'est exactement ça.
Et en revanche, intelligence en disant je vais apporter ma touche. Les fondations sont très bonnes, on va bâtir là-dessus, mais après il y a quelque chose qui vont être différentes. Ouais. C'est évident parce que c'est un coach, il veut mettre sa patte à l'effectif, mais en tout cas, on a vu une continuité que ce qu'on pouvait voir l'année dernière.
Un peu plus de jeu direct, je dirais, par rapport à Jean-Marc Furlan.
Ouais, après alors est-ce que peut-être c'est la Ligue 1 qui veut ça aujourd'hui, il y a peut-être moins de facilité.
C'est plus vertical que un petit peu. Brest déjà l'est un peu plus.
Ouais. Après franchement cette équipe l'année dernière, c'est un secret pour personne, je les ai suivis vraiment quasiment tous leurs matchs en étant le lanceur de la secte du furlanisme, mais quand tu perds Jean-Marc Furlan et que tu dois le remplacer, si tu prends Olivier Daloglio, pour moi il y a aucun problème, c'est dans la continuité. Damien a raison, c'est la même vision du foot.
Ce qui te plaît chez eux, c'est le caractère, on va le dire. Jean-Marc Furlan, on plaisante de temps en temps, c'est le penseur, sa compagne et coach Olivier Daloglio aussi.
C'est pas ça qui me plaît.
Le caractère cérébral.
Ce qui me plaît, c'est que c'est des gens qui ont une vraie vision du football, qui vont jusqu'au bout dans leurs idées, qui mettent tout ce qu'il faut pour mettre en place leur vision du jeu et qui surtout ont une méthodologie complète.
Et qui demandent aux joueurs de se responsabiliser.
Aussi. Et c'est deux coachs qui ont les mêmes idées, voilà, qui se ressemblent totalement. Alors après, quand on regarde cette équipe, très franchement, il y a quand même des joueurs qui, pour moi, sont des très bons joueurs de Ligue 1. Alors, il a jamais vraiment réussi à s'imposer à ce niveau-là, mais Gaëtan Charbonnier, je pense qu'il ressort grandi, justement, des saisons qu'il a passées avec Jean-Marc Furlan. J'entends beaucoup de lui. Son duo avec Mathias Autrey, pour moi devant, c'est un très bon duo pour jouer, le maintien en Ligue 1.
Un bémol, ce pénalty manqué, on en a parlé, mais il a déjà fait un passage L2, L1. Allez, pour quelques chiffres. Yatabaré, meilleur buteur en Ligue 2, derrière 11 buts à Guingamp, Giroud qui en met 12, mais sinon, les mecs ne passent pas la barre des 10 buts souvent. Est-ce que Charbonnier, qui en a marqué 27 l'an dernier, peut franchir ce cap?
Mais il est plus âgé? Il a pris de l'expérience et puis Jean-Marc Furlan nous en parlait après la montée de Brest l'année dernière. Il disait que c'était un garçon qui avait une personnalité peut-être un petit peu à part, qu'il fallait savoir le prendre. Et j'ai l'impression que Daloglio va savoir le gérer. Je pense qu'il est mûr et mature pour jouer en Ligue 1. Techniquement, il n'y a pas de problème là-dessus. Je pense qu'il a largement le niveau de la première division française. C'est un joueur qui est très classieux, très élégant à avoir joué. Et là, je pense que c'est la bonne pour lui. C'est pas ce penalty qui va tout remettre en question. Et j'allais dire aussi que le milieu de terrain, j'aime beaucoup Belkebla et je suis content de le voir en Ligue 1.
Ouais, après Charbonnier sera pas le seul à faire ses preuves cette année à Brest. Il y a un grand Cyr, par exemple, qui a été ballotté l'année dernière entre Monaco,
il est parti
Strasbourg,
trop tôt à Monaco.
Monaco. Voilà, j'espère qu'il va
Mario Balotté.
Ce club.
Oh, c'est nul, arrête.
T'as une coupe là-dessus sur un truc comme ça.
Mais non, mais il dénigre.
Bah, c'était nul comme blague, Thomas.
Non, mais j'espère que c'est un club qui va lui permettre de franchir ce cap, de s'établir comme un vrai joueur bon de Ligue 1. Et ensuite, il y a des anciens, comme un Fossurier, qui était à 3 à l'époque et qui doit aussi, lui, il a une chance de jouer en Ligue 1 cette année et de prouver le petit Romain Perrault aussi, qui était au PFC l'année dernière. Donc, un recrutement très Ligue 2. mais avec des joueurs à fort potentiel. Donc on fait confiance à
Grégory Laurinaitis. Denis Ma aussi, ancien du HAC.
Et on a Julien. Un dernier mot. Franchement, moi, j'invite tous nos auditeurs à jeter un œil très particulier sur la saison que va faire Belkebla. On sait qu'il a eu un été compliqué, il s'est fait virer de la sélection algérienne.
On a parlé juste tout à l'heure. Voilà.
Mais c'est quand même, c'est un très 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 bon joueur. Et Jean-Marc Furlan avait fait des pieds et des mains pour le faire venir à Brest. Et vous allez voir que au milieu de terrain, ça peut être une des révélations de la Ligue 1 cette saison.
Il jouerait au rugby, Belkebla, on lui aurait dit bravo, on l'aurait encensé pour avoir montré ton derrière. C'est normal. Et là,
c'est vrai. C'est
non
vrai.
Mais c'est vrai. Les réseaux sociaux, c'est terrible.
Après, Belmadi a gagné, donc il a forcément raison.
Vous venez de parler de ces hommes-là. Eh bien, Julien, t'es avec nous au 32-16, t'es d'accord. Ce recrutement, il fait du bien, il est intelligent pour le SB29.
Ah oui, tout à fait. Bonjour à tout le monde, bonjour à toute l'équipe.
Salut.
Oui, effectivement, on a par rapport aux autres années, je trouve qu'on a cette année effectué un recrutement très intelligent, qu'on a su garder les bons joueurs, peut-être à l'exception de Weber qui est parti à Caen et qu'on aurait peut-être aimé garder en défense centrale et qu'il aurait fallu garder. Mais on a un recrutement très intelligent. On va avoir Cardona qui va arriver de Monaco aussi en attaque, il va faire beaucoup de bien. Mais on a surtout gardé une ossature centrale au niveau de l'équipe, qui était la même qu'on avait en Ligue 2, et on a des joueurs qui se sont impliqués, qui se sentent bien. J'ai énormément confiance en la paire Grand-Cyr-Autrey qui a montré de belles choses en préparation, ouais. Qui a encore montré de belles choses ce soir. Charbonnier a raté un pénalty, je pense que c'est pas grave, ça peut arriver au meilleur de tout le monde. Il y a eu du temps, automatiquement il y a une pression qui se met, on gagne 1-0, on joue à domicile, il y a une pression. Un pénalty, ça se tire, ça se rate, ça peut arriver. Je pense qu'il faut pas lui mettre la pression là-dessus. Il en marquera d'autres. Il y a aucun souci. Je rejoins également l'avis sur Belkebla, qui est un joueur qui a un très très gros niveau. Et je veux mettre aussi en avant N'Goma, qui est un joueur qui a pas forcément été mis en avant, ou Diallo, qui vient aussi d'arriver de Monaco, qui nous avait été en prêt l'année dernière, qui a été transféré cette année chez nous, et qui va également apporter beaucoup, beaucoup de soutien à l'entrejeu, et qui peut également apporter un gros, gros soutien, et qui va également apporter des très grosses choses. Moi, je suis très content du recrutement de Brest cette année, et je pense que si on joue intelligemment, et sans se mettre la pression, on peut être dans le top 12.
Julien, top 12, j'ai beaucoup d'affection pour votre club. Allez-vous savoir voyager?
C'est la question de tous les ans. L'année dernière, en Ligue 2, nous avons mieux joué à l'extérieur que nous n'avons joué à domicile. C'est le défaut de Brest.
Eh ouais, Saint-Étienne, hein, déjà la semaine prochaine.
Une année, c'est très bon à l'extérieur, une année, c'est très mauvais. C'est toujours le souci. Après, malheureusement, je ne peux pas répondre à la question.
Si tu veux être 12e, il faut aller en gagner quelques-uns.
On a des joueurs d'expérience. Et j'ai confiance. Honnêtement, j'ai confiance.
Le problème, le problème, à la fois, c'est une bonne chose et ça peut devenir un problème. On sait qu'il y a beaucoup d'anciens dans le staff. Donc, je crois qu'il y a Julien Lachuire qui est toujours entraîneur des gardiens. Il y a Bruno Brugy qui est toujours entraîneur adjoint. Il y a Lorenzi qui est le directeur sportif. De Brest,
qui
fait du très bon boulot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Dalloglio est arrivé tout seul à la tête de cette équipe, où il a amené un adjoint quand même. Parce que parfois, c'est pas évident quand on est tout seul avec des anciens dans un club. Alors certes, c'est bien parce que ça transmet certaines valeurs aux nouveaux venus, aux nouveaux joueurs de ce que c'est vraiment le Stade brestois. Mais après, si ça se passe un peu moins bien, à voir si le coach ne peut pas être un peu isolé, justement, et que les anciens veulent reprendre le couvert.
On verra, c'est un peu tôt pour... Mais t'as raison, mais...
C'est un peu tôt. On n'a pas eu le cas avec Jean-Marc Furlan, qui a travaillé avec cette équipe-là, et avec qui ça s'est relativement bien passé. Je pense que si problème il y a eu, c'était avec la présidence et avec des cadres plus haut placés, et pas avec l'équipe, pas avec l'équipe qui encadrait les joueurs. Maintenant, le recrutement a été bien fait et pour une fois, nous, c'est un recrutement qui plaît, je pense, à tous les supporters.
C'est clair, t'as un effectif correct pour jouer un effectif pas mal pour jouer le maintien.
Olivier, d'abord,
voilà, maintenant, on espère, on joue le maintien, il faut être.
Ah bah oui, en termes de budget, en termes de force en présence, oui.
On est le 19e budget de Ligue 1 juste devant Nîmes. Il est clair, on joue le maintien. Il faut jouer le maintien. Maintenant, on va espérer de faire comme les autres, comme d'autres clubs l'année dernière qui ont surpris.
Ouais, faire les troubles faits. Ce qu'il faut, c'est ce que c'est la recette.
Plus, il faut y aller.
La recette, c'est de faire un gros début de saison.
Ouais, et puis d'arrêter de se poser des questions et de jouer les matchs.
Ouais, exactement. Mais faire un gros début de saison, à l'instar de ce que Nîmes avait fait, ça avait lancé une bonne dynamique.
Non, j'allais remercier Julien et te dire non. Olivier Dalloglio, il avait perdu Stéphane Jobard, qui est désormais l'entraîneur de Dijon. Il est venu avec Michel Padovani à Brest pour l'épauler. Suite au départ de Jean-Marc Furlan. Merci beaucoup, Julien.
Ciao, Julien. Bonne saison.
On passe à notre cinquième et dernier match à 20h. On attend la reprise de Jim Ratcliffe. On se dit, tiens, le ciel est bien bas. Il y a des cumulonimbus. Ils en ont pris 8 contre Wolfsburg. Et puis, tu refours Galan Saint-Maximin. Eh ben, tu gagnes 2-1. Dans les arrêts de jeu avec Dante. Ouf, de soulagement pour Nice face à Amiens.
Cette équipe, elle souffre des mêmes maux que l'année dernière. C'est-à-dire que c'est une équipe qui a une certaine personnalité dans le jeu, qui a une certaine maîtrise sur le match jusqu'aux 30 derniers mètres et qui manque totalement de tueurs devant. C'est une équipe qui a du mal à marquer des buts. Là, ils s'en remettent un coup de pied arrêté en fin de match où Dante sort un petit peu de nulle part et offre la victoire à Nice. Mais sur ce match-là, très franchement, voilà, c'est le même Nice que l'année dernière. Certitude dans le jeu, mais du mal à la finition. Donc je pense que il va falloir impérativement recruter du monde devant, recruter un vrai numéro 9. J'aime beaucoup Mickaël Le Bihan, mais je pense que c'est quand même un petit peu léger pour faire toute une saison. T'as une équipe qui joue bien, t'as des attaquants qui peuvent avoir des ballons, mais il faut les mettre au fond, il faut quelqu'un qui soit réaliste, parce que cette équipe, elle a vraiment quelque chose. Patrick Vieira a vraiment donné une personnalité à cette équipe-là. Après, très franchement, sur le match, ils ont quand même un petit peu tendu le bâton pour se faire battre, parce qu'à partir du moment où ils marquent et où Niaoré se fait expulser, ils arrêtent totalement de jouer. Ils se font égaliser d'une manière totalement justifiée. On attendait Godos. C'est peut-être la dernière fois que je peux faire cette blague parce qu'il risque de partir, donc je la fais. Donc on attendait Godos, il délivre un caviar pour le but de Cheick Timité. Et puis voilà, je suis un peu déçu pour encore un des amis de l'émission, Jean-Marc de la Maison du Whisky, supporter fidèle amiennois, que j'embrasse à chaque fois.
Je la trouve très bonne, ta blague sur Godos par rapport à ses origines.
Tu l'as compris ?
Non, mais par rapport à ses origines, je la trouve très très bien. Toi, tu peux faire une blague comme ça et je la trouve super bien.
Tu l'as compris.
Je te dis, par rapport à ses origines, ta blague sur Godos, je la trouve très bien.
Parce que tu sais que personne n'avait compris jusqu'à présent. Je l'ai fait des dizaines de fois. Hein. Bravo.
Oui, mais tout le monde ne peut pas la faire. Christophe Herel, 1-0 à la demi-heure. Effectivement, égalisation de Shadrack Akolo, 1 partout. Et Dante, avec Gürtner, qui constate déjà les dégâts. Je ne serais pas aussi péremptoire que Jonathan en disant on a déjà des certitudes. S'il y a une équipe qui n'a pas trop de certitudes, Jonathan, Damien. Ouais, d'accord, c'est Nice.
C'est quand même Nice, surtout après la campagne des matchs amicaux où ils se prennent deux déculottés. Très franchement, quand tu vois ce match, le début du match, tu te dis, mon pauvre Patrick Vieira, mais en fait, qu'est-ce que tu vas réussir à faire ? Et on espère que tu ne vas pas être ridicule contre Amiens sur ta première journée de championnat. Et en fait, on voit que la compétition arrivant, bon, c'est pas extraordinaire, mais il y a les bases. Il y a les bases
comme l'année dernière.
De toute façon, bah, c'est simple, hein, y a qu'à voir l'effectif.
C'est le même.
Bah, c'est exactement la même chose. À noter quand même que tu dis Mickaël Le Bihan un peu juste, certes, pour être un titulaire indiscutable, mais c'est un joueur qui a un talent extraordinaire, qui est vraiment pas épargné par les blessures. Et c'est pour ça que là aujourd'hui, moi, ce but, alors même si c'est RL qui le marque, eh ben j'aimerais bien le donner à Mickaël Le Bihan parce que il a tellement galéré dans
ça
sa carrière.
Ça m'a arrangé pour MPG aussi d'ailleurs.
Et voilà.
Gazon.
J'espère pour Patrick Vieira que la vente va vite se faire, qui va pouvoir avoir du matos pour avoir d'autres ambitions, des ambitions un peu plus élevées. Et c'est un très bon coach.
Nice, il y a un truc qui m'a plu, c'est que William Cyprien, qui avait vraiment éclaté en Ligue 1 avant de se blesser, là, il a eu un petit peu de mal à vraiment retrouver son niveau, à être aussi tranchant qu'est-ce qu'il pouvait être avant sa blessure. Là, je l'ai trouvé bien en jambes ce soir. Et j'attends une grosse
saison de lui. Vous reprendre la barre, messieurs ?
Ça serait bien.
C'était quand même extraordinaire.
Ça pourrait poser des problèmes aussi.
Pourquoi ?
Ça se passait pas si mal, finalement, jusqu'à présent. Alors certes, ils sont partis, mais l'équipe, ça se passait bien.
Ça se passait quand même beaucoup mieux avant.
Mais comment ça se passait
mieux avant ? J'aime pas le « c'était mieux avant », mais il y avait une stabilité, il y avait un projet.
Leur projet, là, le nouveau projet, enfin qui vient d'être de nouveau racheté, justement, avec Gauthier Ganaï, moi, je trouvais pas ça ridicule.
Franchement,
j'ai du mal avec les actionnaires qui ont 12 clubs.
Il avait réussi à replonger Patrick Vieira dans l'esprit club, à le garder.
Ouais, mais
et là, franchement, on change encore de nouveau.
Damien, River, Fournier, ils ont réussi quand même à stabiliser. Allez, pas stabiliser, mais à faire que Nice, à chaque début de saison, tu te dises, bah, c'est un club qui peut jouer le top 5. Ils avaient quand même des choses qui marchaient super bien. On l'avait dit plusieurs fois, mais je pense que sur les 10 dernières années, c'est la cellule de recrutement de Ligue 1 qui a le meilleur rapport qualité-prix. Ils ont fait des coups de folie avec Julien Fournier et ses hommes. Je vous rappelle, hein, juste comme ça, mais un joueur comme Jean-Michel Seri pour moins de 2 millions d'euros, Darius Vitanic, les deux latéraux d'Albert, ils ont fait des super coups. Et ils ont surtout réussi à donner une sorte de personnalité à Nice. Et je pense que leur départ, même si tu le sens pas sur le terrain, même si ça s'est quand même plutôt pas mal passé, ça a un petit peu écorné voilà, c'est, cette image qu'ils avaient réussi à instaurer.
Il n'y a pas de problème. Je remets vraiment nullement en question le travail qu'ils ont effectué. Et puis justement, on sentait qu'il y avait une alchimie entre les trois, entre River, Fournier et même Patrick Vieira. Ensuite, voilà, je me mets à la place de Vieira. Il m'emmène dans un projet. Ils quittent au bout de quelques mois. Un an après, ils reviennent de nouveau.
Peut-être qu'ils se parlent.
C'est assez.
Peut-être qu'ils se sont parlé, non?
Voilà, c'est
non, assez. Tu dois être dit qu'ils sont.
Ils vont chercher plus de stabilité chez l'actionnaire. Il fut un temps, on était serein. Enfin, on trouvait que c'était normal de voir Nice européen. Voilà pour ces matchs de 20h. Dans le désordre, dans un instant, on parle de la Première Ligue. On parle de ce mercato avec encore ce dossier Neymar. Et je ne sais pas si les blagues de Jonathan McCarthy vont être aussi perçantes dans un instant quand on parlera de l'OM. C'est l'After sur RMC. À tout de suite.
RMC, l'After Foot.